C'est Romain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le pire reste à venir ce matin sur les antennes de Principe Actif et sur les antennes de Radio HDR. Nous parlerons Zeus, nous parlerons Mars, nous parlerons Romain, quoi, en fait, vous l'aurez compris. C'est l'occasion ce matin de se pencher sur les journées du patrimoine, matrimoine, celle qui nous attend ce week-end précisément, un peu partout autour de chez vous, autour de chez nous, et puis plus précisément pour ce qui nous occupe ce matin, autour de Gisacoum et l'îlot Saint-Louis à Évreux, sur les fouilles et puis sur les festivités qui nous attendent, tout simplement. Et puis, nous aurons l'occasion de retrouver de la bonne humeur, de la bonne musique, peut-être le répondeur si vous nous avez laissé quelques messages. En tout cas, de quoi faire une bonne matinale. Et pour se mettre dans l'ambiance, pour rentrer tout de suite en fanfare, je vous propose un premier titre, celui des Nana Benz du Togo, qui sera programmé samedi 16, ce samedi-là, sur le site de Gisacoum. Mais ça, nous aurons l'occasion d'y revenir. Les Nana Benz du Togo pour commencer cette matinale.
Maintenant j'ai compris.
Tu as compris?
Maintenant j'ai compris.
Tu comprends pas?
Maintenant j'ai compris.
T'as compris?
Maintenant j'ai compris.
Hey.
Quand je dis non, c'est non. Me laisser tranquille. Si je n'ai pas envie de toi, gardons-nous namu olé, gardons-nous olé, donnons-nous namu olé, adonnons-nous namu adjé, 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 adjé. Quand je dis non, c'est non. Maintenant j'ai compris.
T'as compris?
Maintenant j'ai compris.
Tu comprends pas?
Maintenant j'ai compris. J'ai compris.
Globe Toto.
Zéro.
Globe Toto.
Zéro.
Globe Toto.
Zéro.
Globe Toto.
Zéro. Quand je dis oui, c'est oui. Mais quand je dis non, c'est non. Tu dois me laisser partir. Si je veux faire ma vie sans toi. Je dis non, c'est non. Oui, c'est oui. Yes, c'est yes. Non, c'est non. Out, c'est out. Nuka, c'est nuka. Bédé, c'est bédé. Jamais, c'est jamais.
T'as compris?
Maintenant, j'ai compris.
T'as compris?
Maintenant, j'ai compris.
T'as compris?
Maintenant, j'ai compris.
Non, c'est non.
Maintenant, j'ai compris. Maintenant j'ai compris.
Je dis non, c'est non. Oui, c'est oui. Yes, c'est yes.
Ouais, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like the mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Bien, vous n'avez pas laissé de message ce matin. Eh bien, ça m'en rend triste tout ça. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur notre répondeur téléphonique diffusé aux alentours de 8h05, 8h10, en fonction du vent qui fera. Donnez-nous de vos nouvelles, parlez-nous d'un événement qu'il se passerait pas très loin de chez vous. Peut-être même que vous l'organisez, souhaitez donc l'anniversaire à mamie. En tout cas, laissez-nous des messages sur le répondeur, c'est votre zone, vous pouvez vous exprimer. Et c'est pour notre plus grand plaisir. Nous avons dit que nous allions parler romain, que nous allions parler sites gallo-romains et notamment ceux qui sont autour d'Évreux. Et nous avons avec nous une spécialiste du Maid. Nous sommes avec Nathalie Gobert, responsable accueil et animation à Gisacoum dans le cadre des missions archéologiques départementales, le MAID. On y reviendra dans un instant. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Comment ça va ce matin déjà ?
Super bien.
Voilà, ça c'est la première des choses, c'est plutôt pas mal. Ma toute première question, ça va être, mais qui êtes-vous Nathalie Gobert ? Quelle est votre fonction dans cette mission archéologique, dans cet accueil sur Gisacoum ? Quelle est votre mission ?
Mon mission, c'est de faire en sorte qu'on accueille un maximum de public et qu'on fasse découvrir le site gallo-romain de Gisacoum au Vieil Évreux, qu'on fasse comprendre ce que c'était il y a 2000 ans, ce que c'est aujourd'hui, et d'accueillir tous les publics, les scolaires, les individuels, les familles, différents types de groupes, avec toute l'équipe d'accueil et de médiation, en fait, avec laquelle je travaille sur le site tout au long de la saison.
Alors justement, ce site gallo-romain Gisacoum, on va en revenir en quelques mots pour les derniers qui ne savaient pas trop bien à quoi correspondait ce site. Et puis peut-être ça a avancé aussi, parce qu'il continue à être fouillé, on y reviendra dans un instant. Peut-être que sa fonction a bougé entre ce qu'on nous a dit il y a 5-6 ans et aujourd'hui. Quel est ce site de Gisacoum ? À quoi servait-il ?
Gisacoum, il y a 2000 ans, c'était une agglomération religieuse, en fait, qui existait et fonctionnait en même temps que la ville d'Évreux, qui s'appelait Mediolanum. Et donc, on avait comme ça, à quelques kilomètres l'une de l'autre, deux agglomérations qui fonctionnaient ensemble. Gisacoum, c'était le lieu où on se rencontrait pour les fêtes religieuses, pour participer à des cérémonies en l'honneur de Jupiter, d'Apollon, de toutes les divinités, dont les archéologues ont retrouvé des statues sur le site et sur le grand sanctuaire. Mais autour de ces fêtes, en fait, il faut aussi imaginer qu'on se lave dans les thermes, qu'on fait du sport, qu'on rencontre ses amis, qu'on fait son marché, qu'on boit, qu'on mange. Et tout ça a laissé des traces dans les différents monuments qui ont pu être fouillés depuis 200 ans maintenant, puisque ça fait plus de 200 ans qu'on fouille et qu'on découvre et qu'on comprend toujours un petit peu mieux ce qu'était cette ville gallo-romaine.
C'est un site qui a été retrouvé il y a 200 ans, c'est ça, au détour d'un, je sais pas, d'un labour, par exemple, de champ ou quelque chose comme ça, parce que souvent ça arrive, hein, ce type de découverte.
On n'est pas sur la découverte fortuite, parce qu'en fait, finalement, Gisacoum, bien que la ville avait été abandonnée, elle a jamais disparu du paysage. Donc, en fait, il y avait d'énormes ruines dans les champs, au cœur du village, des grandes buttes d'amas de gravats, qui avaient d'ailleurs donné l'impression qu'on était là sur l'ancienne ville d'Évreux. C'est pour ça que le village sur lequel on se situe, c'est le Vieil Évreux. Donc ces grandes buttes de terre, ces amas de gravats, c'est juste qu'il a fallu attendre 1801 pour qu'on fasse vraiment de l'archéologie, en fait, en France, et qu'on s'y attaque, qu'on comprenne mieux ce que c'était. Les vestiges des thermes, par exemple, qu'on peut voir aujourd'hui dans le jardin, on pensait que c'était un château. Parce qu'il y avait deux grandes tours de chaque côté, ça laissait beaucoup de, voilà, des grands murs en ruine. Donc le site n'avait jamais vraiment disparu du paysage, de la connaissance un peu commune, mais on ne savait plus alors ni la fonction des monuments, de quand ça datait, et puis son nom encore moins.
Et alors, c'est là où les missions d'archéologie prennent tout leur sens. Ça veut dire que ça va être des recherches sur le terrain, mais ça va être peut-être aussi des recherches en littérature, en documentation. Enfin, j'imagine peut-être des comparaisons aussi sur certains autres chantiers. Comment ça se passe d'ailleurs?
Effectivement, toute la recherche archéologique, en fait, il faut se dire qu'il n'y a pas que la phase de fouille. La phase de fouille, c'est celle qu'on imagine tous, c'est celle qui nous paraît évidente, mais il faut savoir que les archéologues, il y a un avant et un après la fouille. Et avant la fouille, il y a toute la recherche, la documentation en archives. Pour nous, c'est étudier les fouilles anciennes, mais pour les anciens, c'était aussi étudier les textes de l'Antiquité ou ceux qui étaient parvenus jusqu'à nous.
On continue à aller se référer aux textes, aux vieux textes, pour compléter une information ou pas ?
Ça peut arriver.
Oui, ça peut arriver.
Ouais, ça peut arriver. D'essayer de comprendre en essayant de retrouver quand même les textes les plus anciens, d'historiens. En tout cas, pour comprendre certaines choses qu'on découvre en fouille, pour comprendre la fonction d'un objet, on a toujours besoin de revenir à la littérature ancienne, voir comment les choses sont décrites, pour mieux comprendre. Un exemple tout simple, c'est on va découvrir des pions de jeu et un plateau. Mais on ne sait pas forcément comment jouer. L'étude de la littérature sur le sujet peut nous permettre de comprendre, par exemple, ce qu'on a découvert finalement.
Il y a ce type de découverte sur le site de Gizakoum, des jeux, des choses comme ça, des trucs un peu particuliers.
Tous les ans, il y a évidemment plein de découvertes. Il y a eu des questions à se poser effectivement sur des représentations figurées, par exemple des décors sculptés, où on représente des actions, des objets dans les mains des personnages, et où il faut se creuser un petit peu la tête. Et mes collègues archéologues, là, effectivement, font des petites recherches, compulsent, vont comparer sur ce qui a été découvert sur d'autres lieux, peut-être mieux conservés, plus clairs, voir un peu les interprétations qui ont été faites par d'autres collègues archéologues, et se référer aux textes anciens ou à d'autres représentations, des scènes figurées sur les magnifiques fresques de Pompéi. C'est très riche pour les archéologues qui étudient du romain tout autour de la Méditerranée, parce qu'en fait, elles sont d'une fraîcheur, d'une précision qui peut permettre de mieux comprendre en fait ce qu'on trouve nous parfois un peu plus arasé, un peu moins précis.
Justement, dans les découvertes, je continue à prendre des nouvelles de Gizakoum.
Hein,
dans les découvertes, dans les fouilles, dans les recherches, il y a un an ou deux, vous nous aviez parlé d'un puits très profond que vous fouillez. Qu'en est-il de ce puits ? A-t-il un fond ?
On n'est toujours pas au fond du puits. Les collègues archéologues ont encore cet été fait leur campagne estivale sur la recherche en profondeur, aidés par des collègues qui peuvent travailler en profondeur, harnachés, qui sont habilités à travailler en profondeur, pour dégager des grands blocs sculptés du temple qui venaient boucher ce grand puits.
Il a été bouché donc du coup consciemment par des blocs, des blocs qui en fait chacun sont intéressants à sortir en fait.
Ah, complètement. Là, en fait, il faut se dire qu'à un moment donné, quand à la fin du IIIe siècle, on abandonne un peu Gizakoum quand même, on fortifie, on préserve, mais il y a un temps où ce qu'on veut, c'est récupérer des pierres, en faire autre chose finalement, de ces grands monuments. Et sur le temple, on a énormément de très gros blocs qui ne sont pas forcément pratiques. Et tous ceux qui sont très décorés, par exemple, ils ne sont pas pratiques pour les réutiliser dans une autre construction. Donc finalement, on démonte le temple, et on profite du fait qu'on avait d'énormes puits, alors on ne va pas jusqu'à la nappe phréatique, mais pour simplifier, on les appelle quand même des puits, qu'on a remplis, évidemment, consciemment, avec ces décors sculptés. Donc ils étaient restés là depuis la fin du IIIe siècle. Donc là, c'est petit à petit, chaque année, et comme c'est le troisième puits qui est fouillé, ça commence à faire une documentation sur le décor, une documentation iconographique très importante que les collègues ont à étudier après la fouille, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a avant, il y a pendant et après la fouille, il faut s'intéresser à ce décor, le comprendre, le redessiner, essayer de reconstituer le puzzle en fait, ça c'est le rôle après la fouille.
Vous allez nous refabriquer un temple comme c'est parti.
Je pense que virtuellement, on va y arriver dans quelques années, là on peut petit à petit, je pense que oui, là les collègues, notre collègue Sébastien Cormier qui étudie le décor sculpté du temple, va petit à petit être capable de vraiment peaufiner le décor, la forme des colonnes, la taille exacte, un éventuel décor pour le fronton, les scènes mythologiques représentées, ça s'affine de plus en plus. On a des décors marins, des monstres marins, des choses auxquelles on ne s'attendait pas il y a encore 3-4 ans. Il y a 2 ans, si on s'est parlé, j'avais pas encore en tête cette idée de scènes mythologiques, de monstres marins qui sont apparus depuis l'année dernière, par exemple.
Ça, on n'en avait pas parlé, effectivement. C'est ce qui est intéressant aussi sur l'archéologie. Et sur les sites historiques, c'est qu'en fait, Jizakoum, qui est accessible au public depuis des années et des années, finalement, si ça fait longtemps qu'on n'y a pas été, on peut presque redécouvrir le site autrement.
Il y a toujours une bonne occasion de venir à Jizakoum, ne serait-ce que parce qu'on fait plein d'activités, d'animations, et que là, ça donne un nouveau regard, un nouvel éclairage sur le site. Et aussi parce que chaque année, on essaye quand même de trouver des rendez-vous pour transmettre l'actualité de la recherche. C'est ça qui est important, c'est que la recherche se poursuit. Et donc, pour les passionnés, il y a toujours un truc à découvrir qu'on n'avait pas encore bien compris. Donc, oui, bien sûr, il faut revenir.
Et puis, c'est tout l'intérêt aussi de cette archéologie vivante, finalement, au fur et à mesure des connaissances, nous l'évoquions, soit à Jizakoum à travers les découvertes ou les fouilles, soit à travers aussi la mise en perspective avec les autres chantiers partout, j'allais dire en France ou en Europe au moins, pour l'époque gallo-romaine. C'est à la lumière des recherches des autres aussi, finalement, on réinterprète ce qu'on a sous la main.
Effectivement, c'est pour ça que les collègues archéologues, quand ils ne sont pas en chantier, ils vont écouter les autres collègues archéologues parler de leur chantier, de leur découverte, découvrir les objets qui ont été trouvés en fouille. C'est vraiment une communauté scientifique qui entretient les uns avec les autres, en fait, voilà, cette recherche. Et petit à petit, on peut revenir sur une interprétation, où on peut mieux comprendre un monument qu'on a fouillé ou une structure. Quand on est le premier à l'avoir fouillé et découvert, c'est compliqué, mais dès qu'il y a d'autres collègues ailleurs, et ça peut être en Afrique du Nord, ça pourrait être en Turquie, vous voyez, l'Empire romain en l'occurrence, hein, concernant Jizakoum, en tout cas, les collègues vont aussi s'intéresser à ce qui se fait tout autour du bassin méditerranéen. Partout où les Romains sont passés, finalement, il y a des infos à découvrir et une compréhension à trouver.
C'est ce que j'ai remarqué, nous aurons tout à l'heure à nos micros Pierre Vech, qui s'occupe, qui est chef de chantier,
responsable d'opération
d'opération sur l'îlot Saint-Louis, notamment. Et donc, j'ai recherché un petit peu 2-3 informations pour préparer l'émission, et je vois toutes les publications, je me dis, mais il est écrivain ou archéologue finalement? et ça veut bien dire qu'en fait, sur chacune des fouilles, sur chacune des découvertes, finalement, il y a une publication, on va dire un peu comme en médecine, qui va alimenter le travail des autres, et du coup on en suppose par déduction qu'il a dû aller s'alimenter de tout un tas d'autres publications de ses collègues archéologues pour pouvoir étayer et comprendre les fouilles. C'est vraiment quelque chose, moi c'est quelque chose qui m'a marqué en découvrant un petit peu toutes ces publications, c'est vraiment un travail... c'est presque un travail d'internet, quoi. C'est de mise en lien en fait des uns des autres.
En fait, c'est bien ce dont on parle parce que c'est la partie peu visible du travail d'archéologue. C'est tout ce qui se passe après la fouille. Comprendre ce qu'on a étudié, ce qu'on a fouillé, ça veut dire aussi le comprendre, comparer. Et puis une fois qu'on a une interprétation, c'est rendre un rapport, c'est le publier, c'est le rendre accessible aux autres, c'est participer à des colloques. Et les actes des colloques participeront aux autres chercheurs. Ça, c'est toute la documentation archéologique, effectivement, dont les archéologues se servent, mais aussi les médiateurs pour pouvoir parler de ce qui a été trouvé sur les sites. On va faire vers toute cette documentation. Donc effectivement, un CV d'archéologue, c'est beaucoup de publications.
Ben oui, tout à fait. C'est intéressant, voilà, ça m'intéressait qu'on l'aborde un petit peu là, parce que finalement, nous, sur les fouilles, on voit juste des palissades en bois qui cachent un petit peu ce qui s'y passe. Une visite, une fois ou deux par an, ouvert au public. Mais finalement, on ne sait pas forcément, nous, grand public, ce qui se passe derrière. Le but du jeu, c'était de lever un petit peu le voile. Nous en parlerons également avec Pierre tout à l'heure. Nathalie, je vous propose une pause musicale, mais vous restez avec nous. On va parler un petit peu de festivités et d'animation aussi sur le site de Jizakoum.
Oui.
Jump on them off your fall. international and we global. I'll tell you this, don't call we no local sound this, 'cause we are ambassador in this business. Little lion tongue, no local, we international and universal. I'll tell you this, don't call we no local sound this. Little lion, lord of the country, blaze of the chalice. Come make we rally in the name of cannabis, for it's the holy herb, ancient practice. Never label marijuana with the blackness. Little lion song, I burn Babylon, 'cause say it's okay for man to marry man. And every day in a ridicule, the good ganja man. No wonder why the crime rate in this pandalan. The people need the trees to hold a meditation, and the working class will face them tension. Little lion song, burn them down. Don't call we local, we international. Run this reggae business. No, 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 no. We no local, we international and we global. Little Lion Sound, number one sound.
Oye, oye, hop, debout là-dedans.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
Allez, debout là-dedans, allez.
Le pire reste à venir. La matinale de Principe Actif et d'HDR.
Le pire reste à venir.
Nous sommes toujours avec Nathalie Gobert, responsable accueil et animation à Gizakoum, qui fait partie de, des missions du département, mission archéologie départementale, c'est le MAID. C'est quasiment un nom américain de FBI ou je sais pas quoi, le MAID.
Oui, bon, alors dit à la française, MAD, c'est mon nom.
MAD. Oh ouais, ben voilà, ça y est, je rêve moins d'un coup. Hein.
On a les Mad Men, la Mad et la Mad Woman. Effectivement, c'est les super-héros de l'archéologie sur le département de l'Eure.
Vous êtes plus spécifiquement sur le site de Gizakoum, Nathalie. Et ce week-end, ça va être les journées du patrimoine, matrimoine. Mmh. J'imagine que ça vous parle, quand on parle de patrimoine notamment, quand on est sur un site de Gizakoum, c'est la mise en valeur, c'est l'occasion de faire la fête autour de l'histoire.
Complètement. Ah bah là, les journées du patrimoine, c'est l'événement qu'il ne faut pas rater. C'est l'événement phare, celui où effectivement on rend le site le plus ouvert possible, le plus accessible. On ouvre les portes, les coulisses, du chantier de fouilles, et on essaye de rendre ce patrimoine vivant, festif, mais pour attirer un maximum de personnes et que les gens se rendent compte en étant là, par l'animation aussi, que tiens, ça vaut le coup de venir dans ce jardin, découvrir les vestiges des thermes et comprendre un petit peu ce qui se passait ici.
Et puis ce lien entre histoire et monde contemporain, finalement celui dans lequel on vit, et notamment cette année, mais depuis plusieurs années, est tout simplement fait, notamment à travers les lives à Gizakoum, où là c'est la musique actuelle qui s'empare des termes.
Oui.
Ils en faisaient de la musique d'ailleurs, les Romains, dans ces lieux-là, vous savez, ou pas?
Oui, oui, oui. Alors la musique est omniprésente en fait chez les Romains. Elle rythme un repas, elle rythme une fête religieuse. Alors à Gizakoum, en période de fête religieuse, je pense que ça, voilà, ça devait sonner les flûtes, les tambourins. Donc, autre ambiance hein, que live à Gizakoum et nos concerts de musiques actuelles. Mais alors, en tout cas, oui, ils vivaient dans la musique. La musique, ça rythme une fête religieuse, ça rythme un combat sur le champ de bataille. En fait, c'est omniprésent.
Donc du coup, c'est totalement cohérent, ce fameux live à Gizakoum. Alors, ça va être notre musique actuelle à nous, c'est pas la musique actuelle romaine,
voilà.
C'est notre musique actuelle à nous. Ça va être Lucie Antune, Nana Benz du Togo,
Ouais.
Claire Days et Michael Munkel. Donc là, on va être sur quatre concerts sur ce site. Ça s'y prête, alors pour y avoir été sur les années présentes, ça s'y prête merveilleusement bien finalement
ouais.
à recevoir de la musique ce site de Gizakoum. Ils étaient peut-être assez festifs, ces Romains, même en période
c'est
religieuse.
Sûr. C'est sûr.
C'est une vraie question là que je me pose. Je me disais, est-ce que c'était des gens... Parce que la religion, en fonction des époques et des endroits, n'a pas toujours été abordée pareil. Elle a été abordée de manière très festive à des moments, des époques ou des lieux, et de manière très austère à d'autres. Les Romains, d'ailleurs, ils étaient comment plutôt?
Je pense quand même qu'à l'époque romaine, c'est des parfums, des guirlandes de fleurs. Quand je parlais de la musique, c'est absolument indispensable, en fait. Hein. Les flûtes, les tambours, c'est vraiment le quotidien. Après, chaque fête, puisqu'il faut bien s'imaginer que le calendrier romain alors, est bercé par un nombre de fêtes invraisemblables, mais chaque divinité va avoir une spécificité, donc il y a des nuances hein, dans tous ces jours religieux. En tout cas, les couleurs, les tissus brodés, c'est vraiment les cinq sens sont à la fête pendant une fête religieuse pour rendre honneur à la divinité. Des spectacles sont organisés, donc nous, on donne des concerts, mais en fait, à l'époque romaine, après les cérémonies dans le temple, on se retrouve au théâtre pour finir une journée de fête religieuse, ça passe par le spectacle, ça passe par la représentation offerte voilà, à tous les participants. Donc finalement, ce rendez-vous musical offert au plus grand nombre, ces lieux, le jardin, effectivement, et les thermes s'y prêtent très bien. Ils sont grands, des milliers de personnes y venaient dans l'Antiquité avant une fête religieuse. Bah, aujourd'hui encore, on peut être très nombreux à venir écouter les différents concerts, deux scènes, une au plus près des thermes et une dans le jardin, pour vraiment valoriser ces deux lieux phares de Jizakoum.
C'est accessible à tous, aux plus jeunes comme aux plus vieux, c'est gratuit, il n'y a aucune raison de s'en priver.
Ah non, il ne faut pas s'en priver. C'est vraiment l'idée d'une programmation en plus accessible, éclectique, pour tous les goûts. Il faut juste être curieux, en fait. Et là, à partir de là, normalement, l'après-midi est réussi parce que des ambiances musicales différentes, un lieu avec un jardin, de la boisson, une restauration sur place tout au long de l'après-midi. Enfin, tout est fait, en fait, pour qu'on y soit à l'aise et qu'on passe un bon moment.
Premier concert à 16h, mais on peut arriver avant?
Ah ben bien sûr, on peut arriver avant, c'est les journées du patrimoine dès 13h. Il ne faut pas hésiter à venir avant, participer aux autres visites, puisque samedi, on peut aussi visiter le temple, donc pas de souci, et visiter le jardin archéologique, découvrir les vestiges des thermes, comprendre un petit peu ce lieu avant la musique.
Sur justement les journées du patrimoine, ce qui va s'y passer, même au long de l'année, est-ce qu'il y a des rendez-vous, des moments, des temps forts sur le site de Jizakoum en particulier ?
Alors, il y a quand même beaucoup de temps fort maintenant. On a créé beaucoup de rendez-vous sur les différents aspects. En fait, Jizakoum, c'est un site archéologique. Donc, on organise les journées de l'archéologie, par exemple. C'est mi-juin. Mais c'est aussi un jardin, on le disait. Les thermes sont au cœur d'un jardin. Donc, on relaie aussi les rendez-vous au jardin. On a un troupeau de moutons pour entretenir les hectares de prairies qui recouvrent les vestiges archéologiques. Donc, c'est différents types d'animations, soit archéologiques, soit plus nature, environnement. Et puis, là, il y a quelques semaines, c'était le cinéma en plein air à la fin de l'été. On finit toujours l'été avec des projections de films en plein air. Donc, on essaye d'avoir une programmation variée qui rythme la saison de mars jusqu'en novembre. On sera au village des sciences d'Evreux pour parler des sciences de l'archéologie et venir à la rencontre des publics. Donc, c'est vrai qu'on essaye d'évoquer un peu toutes les facettes du site, histoire, archéologie, nature. Pour plein de rendez-vous tout au long de la saison.
Alors même si on met l'accent là maintenant sur la visite du site de Jizakoum, il est ouvert tout au long de l'année. Pour ceux qui ont des enfants scolarisés, ils savent qu'au bout d'un moment, ils vont y passer.
Oui, ils vont venir et revenir.
C'est ça. Voilà, même au détour d'une balade dans l'année, c'est facilement accessible et c'est l'invitation à venir s'y promener.
Bien sûr, on est ouvert du 1er mars au 15 novembre, tous les après-midi. Il y a un petit musée, le centre d'interprétation pour comprendre ce qu'était Jizakoum, voir des objets, bien sûr, découvrir en fouille, des maquettes. Et tout récemment, une nouvelle visite virtuelle 3D des thermes qui permet de mieux s'immerger dans le monument pour comprendre les vestiges qu'on va voir ensuite dans le jardin. Donc ça, c'est tout au long de l'année avec, à chaque vacances scolaires, des ateliers pour les enfants, des visites familiales. Bientôt, ce sera les vacances d'automne. Bon, on vient juste de rentrer, mais on y pense déjà, avec des animations autour d'Halloween, pour les petits, pour les grands, enfin voilà.
C'est rendre vivant et accessible, du coup, finalement quelque chose qui pourrait paraître impressionnant, comme celle de l'histoire, l'époque gallo-romaine, ou des choses qui peuvent nous paraître un peu immenses. Finalement, l'objet à Jizakoum, c'est d'aller jouer, d'aller manipuler, pas les pierres forcément, mais en tout cas d'aller manipuler les idées et le fonctionnement. C'est rendre accessible, finalement, assez simplement, des plus jeunes aux plus anciens, finalement, cette histoire.
Effectivement, ce qui pourrait paraître un peu austère ou un peu scolaire, l'idée c'est de le voir autrement. Et on manipule beaucoup à chaque atelier pour les enfants. L'idée c'est vraiment qu'ils mettent la main à la pâte, qu'ils pratiquent le geste de l'archéologue ou qu'ils puissent jouer à des jeux antiques. Voilà, il y a plein d'idées. Et par exemple, dans notre exposition temporaire qui se termine ce week-end, il y a tout un pôle de médiation où chaque thème de l'exposition Voyage sacré, sacré voyage est illustré par une manipulation. Et très honnêtement, les adultes jouent autant que les enfants. ans à recomposer le temple, à essayer les serrures qui permettaient de comprendre comment les Romains faisaient pour rentrer et sortir de chez eux. Toute cette notion voilà, d'accessibilité, c'est vraiment ce qu'on a à cœur de développer tout au long de la saison, parce que nous, on veut s'adresser aux petits et aux grands, et on a compris que les grands aussi ont besoin de quelque chose de sympa, de fun, d'accessible, et c'est notamment le parti pris qu'on a eu dans cette exposition temporaire qui retrace 200 ans d'archéologie, qui nous permet d'exposer des objets magnifiques découverts depuis 200 ans, mais finalement on les a mis en scène sous l'angle du parcours de deux pèlerins, c'est Lucius et Flavia qui se rendent à Gisacum pour des fêtes religieuses et on les suit d'étape en étape sur les différents monuments, dans les thermes, qu'est-ce qu'on y fait, quand ils participent aux fêtes dans le temple, on raconte leur histoire avec aussi des dessins qui viennent illustrer ce qu'on raconte dans les textes, finalement on met ça en relation avec les objets dans les vitrines, les manipulations du pôle de médiation, et à la fin, on espère que les gens sont immergés pendant une heure de visite dans l'époque gallo-romaine et mieux compris ce qui se passait au pied de chez eux, parce que notre objectif, c'est aussi de faire comprendre à tous que les Romains, l'époque romaine, c'est juste sous nos pieds, dans l'heure, on est concerné par cette partie-là de l'histoire.
Et puis on retrouve un lien aussi avec le musée d'Evreux, qui conserve aussi toute une partie de découvertes archéologiques de Gisacum, et peut-être d'ailleurs aussi dans Evreux, sur le musée.
Oui, bien sûr, le musée a une collection archéologique très riche. Et cette exposition, Voyage sacré, sacré voyage, c'est exactement ça. C'est un partenariat, elle a été montée en partenariat entre les deux structures pour fêter les 150 ans du musée. Et les 150 ans du musée sont très liés aux découvertes très riches faites à Gisacum, en fait. Et
c'est notamment comme par hasard, on commence les fouilles il y a 200 ans et il y a 150 ans, on a un musée.
Et après, on a un musée qui s'ouvre pas très loin. Et oui, parce que ce qu'on y a découvert est tellement incroyable quand même, et notamment les statues de Jupiter et d'Apollon. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas encore, qui ne les ont jamais vues au musée d'Evreux, moi je vous invite à venir les voir à Gisacum, sur le lieu de la découverte, jusqu'à ce dimanche. C'est assez émouvant pour nous. Ce sont vraiment ces découvertes-là majeures, les deux bronzes, mais tous les objets découverts dans le temple, qui ont éveillé les consciences et qui ont permis la création de ce musée qui avait pour vocation de présenter les pièces au public, mais aussi de les conserver. Donc effectivement, c'est le musée d'Evreux qui conserve une très grande partie des collections anciennes. Les objets les plus beaux, notamment, ont été découverts au XIXe siècle. Et donc là, on est ravis de leur faire redécouvrir le lieu de la découverte et que le public puisse se les approprier un petit peu chez nous.
Eh ben, qui prévoit un agrandissement au musée d'Evreux parce qu'on est en train de creuser les puits.
C'est ça l'idée. Effectivement, alors que ça prend beaucoup de place.
Oui, c'est ça.
Mais on les garde chez nous maintenant.
C'est ça, Gisacum, on va commencer à se dire, on fait notre propre musée. Merci beaucoup, Nathalie Gobert. Je rappelle, le site de Gisacum, ouvert de mars
à
novembre. Je ne veux pas les dates précises, mais les gens retrouveront sans
sur
aucun problème.
Internet.
Des animations en permanence. Une expo temporaire qui se termine là, dimanche, sur les journées du patrimoine. C'est ouvert dimanche aussi, du coup.
Bien
alors.
Sûr, avec des visites du temple et de l'expo temporaire pour clore le week-end.
Le 16 et le 17, ce sont les journées européennes du patrimoine. Il faut profiter de ce moment à Gisacum notamment, mais tout autour de chez vous, plein d'autres sites du patrimoine et du matrimoine, justement, sont disponibles à la visite. Certains endroits sont même ouverts spécifiquement à cette occasion et ne le sont pas le reste de l'année. Voilà, on vous encourage bien entendu à découvrir ce qui se passe autour de chez nous. Merci beaucoup Nathalie Gobert. Je rappelle, vous êtes responsable de l'accueil et de l'animation à Gisacum. C'est membre du MAID, de la mission archéologique départementale de l'Eure, même si vous dites MAD.
C'est vrai que c'est moins fun.
Ça me faisait rêver d'un seul coup. Merci beaucoup à vous. Dans un instant, on va retrouver Pierre Vèche, qui, lui, est responsable
d'opérations,
merci de m'aider, sur le site de Saint-Louis notamment. On va aussi en prendre des nouvelles de ce site. Merci beaucoup, Nathalie.
Merci à vous.
Vous l'aurez reconnu pour les plus jeunes d'entre vous ou pour ceux qui sont restés jeunes. C'était le thème de « Ils sont fous ces Romains » d'Astérix et Obélix. Nous avons avec nous justement Pierre Vèche. Bonjour, Pierre. Comme le disait Nathalie, vous êtes responsable d'opération, vous êtes archéologue et vous étiez notamment en charge du site de l'îlot Saint-Louis dont les fouilles, la première phase, s'est terminée au mois de juillet dernier.
Tout à fait, cet été.
Comment allez-vous, Pierre ? Commençons par ça.
Plutôt bien, content d'avoir fini cette belle opération de fouille, effectivement, puis hâte de pouvoir partager tout ça avec ceux que ça intéresse.
Eh bien justement, vous êtes au bon endroit, nous ça nous intéresse. Je le mettais en introduction, le petit thème d'Astérix et Obélix, on a cette représentation nous parfois quand on parle des Romains et du temps des Gallo-Romains, notamment à Évreux. Est-ce qu'on est loin de la réalité ou finalement ces histoires d'Astérix nous ont mis dans une ambiance assez proche de la vie gallo-romaine de l'époque?
Je vais vous faire une réponse de Normand, il y a un peu de tout, mais on est quand même relativement loin effectivement. Astérix est né dans les années 60, 50 ou 60 si je dis pas de bêtises.
Alors donc là, c'est, colle,
c'est aussi tributaire d'une époque. Hein, les créateurs d'Astérix étaient dans leur temps. Mais l'image du petit Gaulois n'a pas bougé depuis sa création. Les connaissances quant aux Gaulois et aux Gallo-Romains, elles ont évolué depuis, forcément. Donc oui, il y a des grandes divergences entre Astérix et la réalité que l'archéologie met au jour.
On voyait des Romains guerriers, on voit à chaque fois les centurions, on s'imagine à chaque fois... quand on parle romain, en fait, dans l'inconscient collectif, ce sont des légions en formation tortue ou en formation je ne sais quoi. Ils ne vivaient pas que de guerre, j'imagine, les Romains et les Gallo-Romains. Et notamment, autour d'Évreux, de quoi vivaient-ils ?
Beaucoup d'agriculture, essentiellement. On est quand même sur des secteurs qui devaient briller par les exploitations rurales, par les échanges commerciaux. Pas d'industrie encore à cette époque, au sens où on l'entend aujourd'hui, évidemment. Mais non, le légionnaire n'est évidemment pas la figure dominante, surtout une fois que la Pax Romana, la fameuse Pax Romana, est installée.
Alors c'est quoi la Pax Romana ?
C'est une fois que les provinces ont été conquises, l'Empire romain, de par son autorité, garantissait une forme de stabilité économique et sociale, la paix romaine, qui permettait justement aux gens de vivre plutôt, on espère pour eux, heureux et d'échanger, de cultiver, d'élever leurs animaux tranquillement.
Oui, parce qu'il y avait ça quand même quand on parle de l'Empire romain. En fait, l'Empire romain était multiple parce que c'était une colonisation, j'allais dire presque douce. Enfin, les peuples se soumettaient à l'autorité romaine une fois la guerre finie. Ils se soumettaient.
D'abord, il y a une phase de conquête militaire quand même.
Oui, il y a quand même une phase de conquête militaire. Mais après, dans les façons de vivre, j'ai l'impression, en tout cas, ce que j'ai peut-être appris à l'école. Alors, c'est peut-être faux, là, Pierre, vous allez peut-être m'arrêter. Mais les coutumes locales étaient assimilées aux coutumes romaines.
Disons qu'on a tendance à... Enfin, on parle de syncrétisme romain. Les Romains, notamment en termes de religion, n'imposaient pas leur dieu. Ils avaient tendance à superposer. Alors, il y a des exceptions, il y a forcément des exceptions. Il y a eu notamment des conflits dans le secteur de la Palestine actuelle, avec les Juifs. Il y a eu des grandes guerres, notamment à l'époque de Titus, on est à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, où il y a eu beaucoup de problèmes avec les monothéismes. Vous le savez sans doute, la religion romaine est une religion polythéiste, et les difficultés qui ont pu être rencontrées en termes d'assimilation sont surtout avec les monothéismes. Le christianisme, on a un bon exemple, il y a eu aussi pas mal de difficultés.
Donc, sur les sites d'Évreux, et c'est là-dessus que nous allons revenir, revenons d'ailleurs à l'îlot Saint-Louis, parce qu'en fait, on vous a reçu deux fois sur cette question de l'îlot Saint-Louis, il y a bientôt deux ans, quand les fouilles démarraient, entre deux, on a fait un point, peut-être l'année dernière d'ailleurs, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Mmh. Et puis, là, le site, la première phase de fouilles est terminée, de juillet dernier. Et on voulait revenir un peu aux nouvelles. Si on pouvait déjà mettre un petit peu le cadre de qu'est-ce que l'îlot Saint-Louis dans cette époque gallo-romaine.
Dans cette époque gallo-romaine, pour ce qu'on sait actuellement.
Et puis dans quel siècle ça se situe aussi?
Alors ça se situe, voire pour l'époque romaine, on est entre le 1er siècle avant notre ère et le 4e, 5e siècle. Sachant qu'on a retrouvé effectivement les traces des occupations les plus anciennes, on va être capable de dresser un portrait de ces premières occupations de la fin de l'époque gauloise et début de l'époque romaine. C'est des phases d'un petit peu de transition. On n'a rien de franchement gaulois sur le site. Et les choses les plus récentes qu'on ait pour l'époque antique vont aller jusqu'au 3, 4e siècle. On n'a pas de traces d'occupation qui vont au-delà, franchement, du 3e siècle. Après, on passe directement, on a des réoccupations beaucoup plus tardives à l'époque médiévale, à l'époque moderne et jusqu'à nos jours.
Et alors, autour de l'îlot Saint-Louis, c'est le site de l'ancien hôpital, hein, tout simplement. Donc, autour de l'îlot Saint-Louis, quelle était un petit peu l'occupation ? C'est que Gisacum, par exemple, c'était plutôt un terrain religieux où on venait célébrer les dieux et éventuellement faire du sport parce que c'était assez lié. Que se passait-il sur l'îlot Saint-Louis ?
Alors, sur l'îlot Saint-Louis, on est en plein cœur de la ville antique. Voilà, on est dans une ville avec tout ce que ça comporte en termes d'activité urbaine. On n'est pas du tout dans les marges de la ville. Et on est au centre de cette ville d'Evreux antique qui s'appelait Mediolanum Olercorum. Les textes anciens nous le disent. On est juste à côté des thermes antiques, dont vous savez sans doute qu'ils ont été fouillés en 1993 avant la construction de la maternité. Donc, on est en plein cœur de ce site-là. Et ben, on est en plein cœur d'une ville avec des rues, des maisons, des bâtiments publics sans doute, qu'on n'a pas toujours la capacité d'identifier de prime abord. C'est pour ça qu'après la fouille vient le temps des études pour pouvoir extraire, voilà, interpréter toutes les données qu'on a accumulées pendant la phase dite de terrain. Mais voilà, on est en plein milieu d'une ville, voilà, bah comme aujourd'hui, si on devait fouiller un jour la ville d'Evreux actuelle, on aurait des rues, des maisons, des bâtiments administratifs, c'est la même chose.
Alors justement, là, l'îlot Saint-Louis, on voit, c'est le cœur de la ville. Est-ce qu'on a une idée un petit peu de quelle taille représentait la ville entre le moins un siècle et plus trois siècles ?
Alors évidemment, la taille de la ville a fluctué. Hein, comme la ville, c'est un objet vivant quelque part. Ça évolue, ça se rétracte, ça s'agrandit, ça se déplace aussi. On estime que la ville d'Evreux atteint son apogée en termes de superficie au IIe siècle et... On estime sa surface une bonne cinquantaine d'hectares.
Entre 50 et 60 hectares. Ça représente quoi, par exemple, dans les rues ou les bâtiments qui existent dans les rues ? J'ai du mal à me représenter.
Alors,
ce qui est 50 hectares. Hein.
50 hectares, c'est, que je ne dis pas de bêtises, 500 000 mètres carrés. Je ne vais pas vous donner l'équivalent en terrain de football, je serai incapable de faire le calcul de tête, mais ça va en gros de la place de la République à l'est, et vers l'ouest, on va à peu près au niveau de la cité administrative.
D'accord. Oui, donc ce qui est déjà une belle ville, elle est un peu plus grande maintenant, mais finalement, on est sur notre centre-ville. Finalement, c'est le centre-ville d'Evreux qu'on connaît aujourd'hui, était la ville gallo-romaine.
La ville romaine était vraiment dans le fond de la vallée, avec tous les désagréments que ça peut engendrer en termes d'humidité, d'inondation éventuelle. Mais oui, c'est le fond de la vallée, les coteaux étaient pas ou peu occupés à cette époque-là.
Vous venez de dire la ville romaine, et moi je dis gallo-romaine depuis le début, vous me reprenez pas parce que vous êtes sympa, mais finalement, est-ce que je suis dans l'erreur
Non, pas du tout.
Ça peut se dire aussi.
Pas du tout, c'est un débat entre spécialistes, mais on va avoir tendance à parler, si on parle de ville romaine, c'est plutôt par référence chronologique, c'est la ville de l'époque romaine. Par contre, si on veut parler de phénomènes sociaux ou culturels, on va être plutôt dans, effectivement, la ville a une forme plutôt gallo-romaine, avec des influences, des bâtiments qui sont issus de la culture romaine, apportés par le conquérant. On va dire, mais en même temps mixé, mélangé avec des choses beaucoup plus locales, bah, notamment par exemple les façons de construire. On a des techniques qui sont plutôt issues du fond gaulois, on peut en avoir, et puis à côté de ça, on peut avoir des bâtiments à la romaine. Donc voilà, il y a un aspect sociologique, culturel gallo-romain, mais quand on veut parler de la chronologie, et c'est ce que moi je faisais référence à la ville romaine au sens chronologique du terme, c'est l'époque romaine.
Alors, l'îlot Saint-Louis, quelles sont les découvertes ou ce qui a été mis à jour ou les particularités maintenant que la première phase est terminée, même si les interprétations et le travail de recherche n'est pas encore terminé? Mais il y a des premières tendances. Voilà, Pierre Vèche, vous qui faites des fouilles, vous qui êtes archéologue, qui faites des fouilles, à la sortie de ce chantier, on est comment ?
On a quand même quelques certitudes, effectivement. Alors, des surprises, des choses inattendues. On a confirmé la présence de certains éléments de rue. Voilà, on a des traces de rue, avec différents états qui se superposent. Et entre ces rues, on a des traces d'habitation relativement cossues. On est bien en centre-ville, avec des installations assez luxueuses, notamment des murs peints avec des décors assez riches. Des installations de chauffage par le sol, qui là aussi témoignent d'un niveau social assez élevé. On a trouvé, et ça c'était la surprise vraiment à laquelle on ne s'attendait pas vraiment, on a trouvé un temple. Alors, vous en parliez juste avant avec Nathalie. Gisacum, certes, une ville à vocation culturelle essentiellement, ce qui n'empêche pas le territoire alentour, y compris le centre urbain de Mediolanum Olercorum, d'avoir ces édifices de culte. Et en l'occurrence, on a trouvé, en vis-à-vis des thermes antiques, on a trouvé un petit temple de type gallo-romain, pour le coup, qui n'était pas spécialement prévu au programme.
C'est parce qu'aussi, peut-être que ces édifices religieux ou la religion, c'était aussi le social, le lien entre les habitants. On savait qu'il y avait le théâtre, le spectacle faisait partie de la vie des Romains et des Gallo-Romains, mais la religion était aussi le lieu social.
Ça fait partie des moments qui rythment la vie des Romains et des Gallo-Romains. comme l'était la religion chrétienne encore il y a pas si longtemps que ça chez nous. C'était la religion qui dictait les grands moments de la vie, les grandes étapes, les fêtes, que ce soit le baptême, le mariage, etc. Et puis on se retrouvait en théorie tous à la messe le dimanche, il y a encore quelques décennies, moins le cas aujourd'hui.
C'est aussi se dire, on se dit aujourd'hui, un temple à l'îlot Saint-Louis, un site religieux à Jizakoum, ça va, c'est à côté, parce qu'on y va en voiture aussi. C'est qu'il y avait le déplacement qui était pas tout à fait au même rythme.
Mais alors je vais même vous garnir un peu le paysage, c'est-à-dire qu'entre le temple de l'îlot Saint-Louis et le temple de Jizakoum, sur les quelques 6-7 kilomètres qui se font entre ces deux points, il faut rajouter deux temples.
Ah oui, il y a des vestiges aujourd'hui
Qui sont plus visibles. Oui. Il y en a un qui se trouve à l'emplacement du collège actuel rue de la Justice, le collège Jean Jaurès, excusez-moi, je cherchais son nom. Et le deuxième se trouve dans l'emprise du lycée Hébert. Il a été fouillé dans les années 90.
D'accord, donc il y avait deux autres temples.
Donc en fait, imaginer que le chemin qui reliait Mediolanum, donc Évreux, à Jizakoum, était jalonné à intervalles réguliers par des édifices religieux.
Sur l'îlot Saint-Louis, vous nous parlez d'habitations cossues, de la bourgeoisie romaine peut-être un petit peu, non ? Il y avait déjà cette hiérarchie, on va dire, sociale.
Tout à fait.
De bourgeoisie romaine, temple, rue. Mais alors ça, c'est sur les constructions. Est-ce qu'on a retrouvé des objets, par exemple, qui illumine aussi notre compréhension de ce monde ?
On a retrouvé des objets. Alors malheureusement, vous le savez sans doute, nous, on ne fouille guère que les poubelles de l'histoire. C'est-à-dire que les objets que l'on retrouve sont ceux qui n'ont pas été conservés, qui n'ont pas été gardés à l'époque parce que cassés, détériorés ou non réutilisables. Malheureusement, la plupart des beaux objets, on ne les retrouve pas, sauf exception, et notamment dans les sépultures. Or là, on n'a pas de sépulture, en tout cas pas pour l'époque antique. On a un cimetière d'époque médiévale, mais pour l'époque antique, le cimetière, on sait à peu près où il est. Hein, il est dans le secteur du Clos-Vauduc, sur les coteaux. Pour l'époque antique, beaucoup, beaucoup de mobilier. On a un volume de mobilier, mais c'est de la vaisselle cassée essentiellement, des restes de repas, donc des ossements animaux. Bien sûr qu'on a des petits objets intéressants, mais c'est pas le gros de la troupe, si j'ose dire.
Très bien. Je vous propose une pause musicale, puis nous revenons juste après pour continuer d'échanger sur ces gallo-romains, ces romains, et puis l'îlot Saint-Louis. Parce que vous l'avez dit au début, la phase 1 est terminée. Ça sous-entend qu'il y aura sûrement une autre phase, peut-être même plusieurs autres phases.
On a night like this, I'm so glad you came around. Hold on to me so tight and heat up some coffee grounds. So much to talk about and so much to reminisce. It sure be right on a night like this. Well, on a night like this, I'm so glad you here to stay. Hold on to me, pretty miss, and say you never go away to stray. Run your fingers down my spine. And it so feels right on a night like this. Well, on a night like this, I can't get any sleep. The hours are so cold outside, and the snow is so very deep. Build a fire, throw one along, and listen to the hiss, and let it burn, burn, burn. Yeah.
Allez, je me lance avec l'appellation, enfin le nom ultra compliqué, Buckwheat Zydeco.
C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller.
Le bien reste à venir.
Le bien reste à venir.
De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Sur HDR et Principe Actif.
Et nous sommes toujours en direct avec Pierre Vèche, qui est archéologue responsable d'opérations au MAID. J'adore moi ce truc quand je le dis à l'américaine tout de suite, je trouve que ça pète. Hein. C'est la mission archéologique départementale de l'Eure. Nous sommes ensemble pour parler romain, gallo-romain, et puis faire un point sur le site de l'îlot Saint-Louis, dont la première phase s'est terminée au mois de juillet. Nous le disions, vous avez retrouvé des rues, des habitations, quelques objets, nous l'évoquions juste à l'instant. Mais je voulais revenir moi sur une notion, c'est qu'en fait là vous avez fouillé avec comme objectif le village gallo-romain, vous le disiez, apogée au IIe siècle, mais en fait il s'est pas rien passé entre le IIIe siècle où la ville est désertée jusqu'à aujourd'hui quand on creuse. Il s'est passé plein d'autres choses en fait, plein d'autres constructions, et tout l'intérêt, c'est d'aller un peu éplucher les couches successives, non? Qu'est-ce qu'il y a eu sur cet espace?
Exactement, bah oui, la vie s'est pas arrêtée à la fin de l'Antiquité. Hein. La preuve en est, la vie d'Evreux existe toujours. Elle n'est pas renée de ses cendres comme le phénix. Non, la ville a continué. On disait tout à l'heure, la ville, c'est un objet vivant. Ça se rétracte, ça se déplace. En l'occurrence, les secteurs de l'îlot Saint-Louis ont été beaucoup moins occupés pendant une grande partie du Moyen-Âge. Donc on a une forme de lacune dans la chronologie. L'occupation reprend avec l'installation d'une congrégation religieuse à partir du XIIIe siècle, avec la construction d'une église et d'un couvent, qui deviendront l'église Saint-Louis. L'église Saint-Louis qui a donné son nom, forcément vous l'aurez deviné, à la rue, et à l'hôpital et au quartier dans son ensemble. Et évidemment, cette occupation va se faire jusqu'à la Révolution française. L'église, le couvent seront rasés au début du XIXe siècle pour être remplacés par le premier hôpital qu'on appelle l'Hospice Saint-Louis. Et petite anecdote, on en parlait tout à l'heure ensemble, ces questions de recyclage, en fait, les matériaux, les objets qu'on ne retrouve pas toujours parce qu'ils sont réutilisés. Le recyclage n'est pas une invention du XXIe siècle.
Oui, on le disait par exemple sur les objets romains, les objets de valeur ont été fondus, récupérés, ils ne sont plus dans les fouilles en fait.
Il y a uniquement ce qui est tombé des poches. Et en l'occurrence, c'est aussi valable pour les gros objets comme les pierres, les blocs de pierre. Je crois que vous l'avez évoqué pour Gizakoum, il y a beaucoup de morceaux du temple qui ont été retrouvés en kit dans les puits. En cours de fouille, et ben Saint-Louis c'est pareil, on a des morceaux du couvent et de l'église en kit dans les fondations des constructions postérieures. C'est-à-dire qu'au moment où ils démolissent l'église et le couvent, ils mettent de côté les blocs qui sont récupérables et ils s'en resservent pour la construction qui suit.
Et vous me disiez, il y a certains blocs qui sont avec des décorations, avec du texte éventuellement, ou autres, qui servent de fondation à l'édifice d'après.
Donc ils nous renseignent doublement, à la fois sur la construction dont elles sont issues originellement, puis dans la construction qui les a accueillies dans un second temps.
Je vous disais, ça brouille aussi les cartes un peu, parce que quand on est sur une construction qu'on pense, je sais pas moi, du 14e, et puis qu'on trouve quelque chose du 12e ou du 11e siècle, ça peut mettre en doute, parce que finalement, il y a des façons de faire qui sont liées aux époques. Et là, d'un seul coup, tout est mélangé.
C'est là le travail de l'archéologue, on est en plein dedans. Et vous mettez le doigt souvent sur le nœud du problème, c'est que nous, on est censé traduire ces éléments-là. On a des informations brutes, mais il faut qu'on puisse décoder tous les filtres entre l'objet initial et la façon dont il nous est parvenu. Donc, en l'occurrence, trouver un objet, en fait, il a une date à laquelle il a été fabriqué, conçu. Donc, ça nous fournit en gros une date butoir, ce qu'on appelle en archéologie un terminus postquem, une date à partir de laquelle on sait que l'objet il a été conçu, mettons, au IIe siècle. Le contexte, le mur dans lequel on l'a trouvé, pour prendre un exemple précis, ne peut pas être plus ancien, mais il peut être plus récent. Et donc, voilà, l'archéologue décrypte toutes ces choses et essaie de faire concorder toutes ces informations pour être ensuite au plus juste en tenant compte de tous ces paramètres.
Nous le disions, la première phase s'est terminée au mois de juillet. On suspecte qu'il y aura une phase 2, une phase 3, je ne sais pas jusqu'où ça s'arrête. Quel va être le boulot justement de la phase 2? Comment ça se passe? Parce que là, sur l'îlot Saint-Louis en particulier, ça a été réenfoui pour une bonne partie. Les constructions contemporaines vont reprendre, enfin vont prendre d'ailleurs, vont commencer. Comment se passent les phases 2, les phases 3 enfin, qu'est-ce qu'on entend dans ces phases?
Alors, il y a plusieurs réponses, c'est-à-dire il y a plusieurs questions. Donc, la réponse,
ouais, effectivement, je les ai toutes envoyées d'un coup.
Voilà, hein, je vais essayer de traiter ça dans l'ordre. Pierre. Après, je vais y arriver. Effectivement, l'ensemble de la ZAC Saint-Louis, l'ensemble du projet Saint-Louis, c'est quasiment 5 hectares. Effectivement, c'est compliqué de tout traiter d'un coup, aussi bien pour les archéologues que pour l'aménagement qui va être fait après, les aménagements qui vont être faits après. Le choix a été fait par la schéma, donc qui est la maîtrise d'ouvrage, de scinder en plusieurs phases, en plusieurs tranches. La tranche 1 qu'on a finie concerne la future école de soins infirmiers, l'IFSI, la voirie qui va traverser l'ensemble de l'îlot entre la rue Saint-Louis actuelle et la rue L'Épousée actuelle, de l'autre côté, et d'autres aménagements, mais on est sur une partie seulement de la ZAC. Les tranches à venir, les phases à venir, vont concerner les autres tranches d'aménagement, donc d'autres secteurs qu'on n'a pas encore touchés à l'heure actuelle, mais qui vont être aussi impactés par les constructions. Et quant à la tranche 1, la phase 1 qui vient de se finir, qui s'est finie cet été, certains secteurs ont été entièrement fouillés. On a purgé, entre guillemets, avec les méthodes adaptées, on a purgé ces emplacements de tout vestige. Donc là, il n'y a aucune contrainte et les constructions peuvent se faire. Il n'y a plus aucune menace qui pèse sur le vestige, puisque vestige, il n'y a plus à ces emplacements-là. En revanche, d'autres secteurs recèlent encore des vestiges qu'on n'a pas fouillés, parce que les projets qui ont été mis en place sur ces secteurs-là sont peu impactants, relativement superficiels. Donc, il n'est nécessaire de fouiller que ce qui est menacé de destruction. S'il n'y a pas de destruction prévue, on ne fouille que le strict nécessaire.
On protège. Je dis n'importe quoi, on coule un peu de sable histoire d'os.
Mais c'est pas n'importe quoi. On met du géotextile et du sable par-dessus. Et normalement, les terrassements à venir ne sont pas censés impacter les vestiges conservés dessous, qui sont du coup éventuellement exploitables pour des générations futures.
Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, il y aura d'autres îlots. Alors, c'était quand même la plus grosse tranche, hein, c'est ça, oui. la phase oui. 1, c'était la plus grosse des tranches.
De loin, la plus grosse tranche, oui.
Voilà, on le voit à votre sourire, c'était là où il fallait fouiller. Il y a d'autres phases sur lesquelles peut-être il y aura des surprises, parce que vous me le disiez tout à l'heure quand on prenait le café avant l'émission, vous me disiez, c'est aussi de l'imprévu, de la surprise, l'archéologie.
Oui, l'archéologie, même si on aimerait bien que ce soit une science exacte, l'archéologie n'est pas une science exacte tant qu'on n'a pas fouillé. En fait, voilà, on a des idées, des prévisions, et j'ai trouvé une image tout à l'heure, je comparais l'archéologue en fait au médecin. Le médecin qui va vous ausculter un peu extérieurement, va vous dire, il y a peut-être une fracture, mais tant qu'il n'a pas fait la radio ou qu'il n'a pas ouvert chirurgicalement le patient, il ne peut pas être certain. Il y a un moment donné où il faut aller voir le vestige, et tant qu'on n'a pas eu ce contact visuel avec le vestige, on ne peut que émettre des hypothèses. Et la fouille est là pour les confirmer ou pas.
Ou les transformer.
Ah oui, il faut savoir changer son fusil d'épaule. C'est pas, comme vous le disiez, c'est pas une science exacte. Des fois, les vestiges nous disent que l'hypothèse de base n'était pas la bonne. À nous d'en trouver une qui s'adapte, qui est plus compatible avec le vestige mis au jour.
Oui, c'est ça. C'est pas les fouilles qui devront s'adapter à la théorie de départ. C'est bien la théorie de départ qui peut-être aura une autre réponse. Issu de toutes ces fouilles, de tout ce travail-là, en fait, il y a des parutions. Je vous le disais tout à l'heure, en préparant cette émission, je suis tombé sur votre CV, notamment celui des parutions. Il y en a à plus savoir les compter, hein, c'est de toutes les parutions. C'est aussi ça, l'intérêt d'une fouille, c'est d'alimenter le travail qu'on a sur site, sur place, mais aussi alimenter le travail peut-être de d'autres qui fouillent peut-être à 300 km d'ici ou à 500 km d'ici.
Oui, parce que ce qu'on trouve va intéresser directement la connaissance d'Évreux. Il y a un intérêt très local, mais en même temps, on va trouver éventuellement des types d'objets rares qui vont aller enrichir des recherches à une échelle beaucoup plus importante. Donc, le nord de la Gaule entière, voire au-delà. Des fois, on peut en revenir à Gisacoum. J'ai étudié jadis l'aqueduc et donc j'ai publié des choses sur cet aqueduc qui intéressent les chercheurs qui travaillent en règle générale sur les aqueducs du monde romain. Donc, au-delà de nos frontières.
Voilà, et les éléments alimentent les uns les autres. Si un ébruitien souhaite en savoir plus sur ce qui s'est passé sur l'île au Saint-Louis, est-ce qu'il y a un endroit, un site, peut-être sur le département, peut-être faut vous attraper directement?
Je pense que le plus simple à l'heure actuelle, c'est de nous attraper directement, donc passer par la mission archéologique. Mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir de toute façon des opérations de restitution auprès du grand public, par le biais de conférences, d'expositions, mais là on est sur un moyen terme, voilà. pas demain. Il nous faudra un peu de temps pour digérer toutes les informations.
C'est ça, l'archéologie, c'est quelque chose de long cours aussi. Et c'est pas, on fouille aujourd'hui et demain, il y a la parution.
Ceci dit, on a fait beaucoup de communication pendant la fouille. Et je pense que beaucoup des bruitiens ont eu la possibilité de venir nous voir.
Mais oui, c'est vous nous cherchez aussi à nous donner tant d'infos comme ça au fur et à mesure de la fouille. Bah, nous, on veut les réponses maintenant. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous avait réinvité aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pierre Vèche. Je rappelle, archéologue, responsable d'opérations sur les fouilles de l'îlot Saint-Louis, notamment. Merci beaucoup. En début d'émission, nous avions Nathalie Gobert de Gisacoum. Bien entendu, et c'est de ça dont on vous a parlé, ce week-end, ce sont les Journées du Patrimoine. Allez-y, pas loin de chez vous. Restez à l'écoute de nos programmes, parce qu'ils sont cools.